Bonjour à tous. Quel plaisir de vous voir ce matin. Bienvenue à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ceux que j'ai déjà vus et ceux que je n'ai pas encore vus. Soyez vraiment accueillis dans la maison du Seigneur. On veut penser aussi à toutes ces personnes qui ne sont pas avec nous et qui nous suivent via les réseaux sociaux. Et on veut croire aussi que le Seigneur peut agir dans vos vies là où vous êtes, à travers Internet. Et ce matin, j'aimerais vous parler de notre identité, être ou ne pas être. Il y a une étude qui a été menée par des scientifiques aux États-Unis. Ils ont pris deux groupes d'étudiants, donc un groupe d'étudiants avec un bon niveau et un groupe d'étudiants avec un mauvais niveau. Et des mouches aussi. Ils les ont mis dans deux salles séparées. Ils sont allés voir les bons étudiants et ils leur ont dit qu'ils étaient le groupe des mauvais étudiants. Et ils sont allés voir le groupe des mauvais étudiants et ils leur ont dit que c'était les bons étudiants. Et vous savez ce qui s'est passé ? À ce moment-là, le résultat des mauvais étudiants a commencé à grimper. Et le résultat des bons étudiants a commencé à stagner et ensuite, même pour certains, à chuter. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes influencés par notre environnement. Notre identité, ce que nous sommes, peut être influencée par notre environnement. En psychologie, l'identité est la conscience que l'on a de soi-même, ainsi que par la reconnaissance des autres de ce que l'on est, de son moi. Elle permet à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son individualité. Donc en fait, il y a deux choses qui vont influencer notre identité. La première chose, ça va être qui on est, nous. Il y a vraiment trois vecteurs qui vont être innés, dont nous n'avons aucune... nous ne pouvons pas choisir. Nous n'avons aucun contrôle dessus. Le premier, c'est notre corps. On vient au monde avec notre corps, éventuellement, c'est vrai qu'après, maintenant, avec la chirurgie, le sport, etc., on peut modifier certaines parties de notre corps, mais ce corps-là, nous naissons avec, et nous allons faire notre vie avec, ça devient notre identité. Notre tempérament aussi. Notre tempérament, c'est la manière que nous allons réagir à notre environnement, et notre manière dont nous serons dans nos relations. Chacun, nous avons tous un tempérament différent, même s'il peut y avoir des similarités. Nous ne réagirons pas tous pareil aux mêmes événements. Nous ne serons pas tous pareils dans nos relations. Et la troisième, c'est l'intelligence. Et là, tout le monde peut se tourner vers son voisin et lui dire « Tu es intelligent ». Ok. Même si vous avez dans votre environnement, dans votre cercle de contact des gens, vous pensez qu'ils n'ont pas d'intelligence, détrompez-vous, ils ont au moins une forme d'intelligence. Il y a en tout 9 formes d'intelligence, je ne vais pas vous les citer, mais nous en possédons au moins tous une. Nous sommes tous intelligents. Mais notre identité, elle peut être altérée aussi, influencée par ce que nous entendons, par notre environnement. Et dans cet environnement, donc ça peut être positif ou négatif selon les cas, et dans cet environnement, on peut relever 3 voies qui vont venir influencer notre identité. La première voie, c'est la voie de Satan. La deuxième, c'est la voie du monde. Et la troisième, c'est la voie de Dieu. J'aimerais vraiment, aujourd'hui, le but, c'est vraiment qu'on puisse prendre conscience de notre identité, de qui l'on est en Christ, de ce que Dieu dit que nous sommes. Et pour ça, on va commencer par la première voie, la voie du diable. Donc le diable, la Bible nous dit que le diable, en Jean 8, 44, deuxième partie du verset, il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur, le père du mensonge. En tant que croyant, en tant que chrétien, nous pensons, nous croyons, nous sommes sûrs que la Bible est la parole de vérité. Cette parole de vérité nous dit que que le diable est le père du mensonge. Il est le mensonge. Rien n'est vrai dans ce qu'il dit. Ok. Et puis là, on parle de voix, la voix du diable. Mais là, C'est pas, il n'y a pas une voix ou un petit diable qui vient se poser sur mon épaule là et puis qui vient me parler. C'est pas une voix que je vais entendre audiblement, mais c'est des pensées qui viennent nous travailler, qui viennent nous ronger. Et le problème, c'est que souvent, on peut venir et on va travailler ces pensées. Son but au diable, c'est de nous détruire, de nous arrêter. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il veut nous éloigner de lui. Il ne veut pas que nous nous approchions de Dieu. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a chanté, quand on s'approche de Dieu, on reçoit la joie, on reçoit la paix, on reçoit notre identité en Jésus, on reçoit qui on est, on reçoit une puissance. Cette puissance lui fait peur. Cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Il ne veut pas que nous fassions les œuvres que Dieu a préparées pour nous depuis le début. Il n'y a donc rien en lui qui est vrai. Et vous savez, au début de l'année, c'était assez spécial, et il y a cette voix du diable qui est venue me travailler, sauf que j'ai cultivé cette pensée. Et en fait, qu'est-ce qu'elle venait me dire ? Elle venait me dire, mais ça ne sert à rien ce que tu fais. Toi, t'es pas bon, toi t'es un homme, t'as pas de puissance, tu viens, tu te demandes de prêcher, mais ça sert à rien. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est que j'en suis venu à croire que ce que je faisais n'avait aucune valeur, que ce que je faisais n'avait aucun fruit, ça servait à rien. Pourquoi ? Parce que j'écoutais cette voix qui me disait que j'étais pas capable. J'écoutais cette voix qui me disait qu'en tant qu'être humain, qu'en tant que Pierre, je ne pouvais rien faire, que ça servait à rien. Dans le groupe de jeunes, dans la prédication, j'en étais venu à un point où j'étais limite en pilote automatique et je dis, bon, ok Seigneur, tu veux que je prêche, mais en fait, je ne crois pas que ça puisse changer grand-chose. Et au final, il y a un jour très particulier, c'était à la RJ de cette année, où vraiment, j'ai pris conscience de cette identité en Christ, de cette identité de fils de Dieu. J'ai pris conscience que quand je me tiens devant vous, ce n'est pas moi qui va toucher vos cœurs, mais c'est la puissance de Dieu. La puissance que Dieu met à travers ce que l'on fait, pas qu'à la prédication, pas qu'à la louange, mais vous tous, de par vos relations, de ce que vous dites aux gens, il y a la puissance de Dieu à travers vos mots. Et ça, c'est important. Ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. Ce qu'on fait, c'est éternel. À chaque fois que vous bénissez une personne, à chaque fois que vous parlez de Dieu à quelqu'un, à chaque fois que vous allez jouer à la louange, à chaque fois que vous allez prêcher, à chaque fois que vous allez vous occuper de la sono, à chaque fois que vous allez être présent pour quelqu'un et faire ce que Dieu vous demande de faire, il y aura une portée éternelle dans ce que vous allez faire. Il y aura une puissance, pas la vôtre, celle de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et ce matin, peut-être que tu as cette voix dans la tête qui dit que tu n'es pas capable. Peut-être que tu ne vaux rien. Peut-être que ce que tu fais, ça ne sert à rien. Peut-être que tu es célibataire depuis un moment et puis qu'il y a une petite voix qui te dit ben, « Tu ne trouveras jamais ton conjoint. Tu ne trouveras jamais de travail. Ça ne sert à rien. » Mais en fait, ça, c'est faux. C'est totalement faux. C'est la voix de Satan. Cette voix, elle n'est pas vraie. Nous sommes une nouvelle créature. À partir du moment où nous acceptons Jésus dans notre vie, nous ne sommes plus qui on était avant. Nous devenons fils et filles de Dieu. Nous sommes nouveaux, nous sommes renouvelés dans notre pensée, dans notre intelligence, dans notre spiritualité. Nous ne sommes plus qui nous sommes. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, ça ne veut pas dire que si tu es chrétien, tu as de la valeur, et si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas de la valeur. Ce n'est pas du tout ça. Mais nous avons conscience de cette valeur que nous avons en Jésus. Et si tu n'as pas accepté Jésus, tu as de la valeur quand même. Tu as de la valeur. Tu as tellement de valeur aux yeux de Jésus, à nos yeux. Et ajouté à la voix de Satan, il y a la voix du monde qui vient interférer, qui vient influencer notre perception. La voix du monde, elle peut être représentée sous plusieurs formes. Elle peut être positive ou négative. Il y a une grosse partie de la voix du monde, ça fait partie de notre identité propre qui peut être vraiment influencée, c'est notre identité sexuelle. C'est quelque chose de très fort. C'est la partie la plus forte de notre identité parce qu'elle est passionnelle et elle est pulsionnelle. Elle est très impulsive. Et en fait, depuis quelques temps, il y a ce libéralisme sexuel qui fait que nous pouvons par la suite pouvoir changer, etc., de sexe. Le monde nous dit que nous ne venons pas au monde, nous ne naissons pas homme ou femme, mais que nous pouvons le choisir plus tard. Et là, je ne prends pas des cas particuliers, hermaphrodite, etc. Vraiment, en tant que personne, nous naissons avec notre sexualité, avec un sexe bien défini à la base. Et le monde nous dit qu'il y a autre chose, que cette perte d'identité sexuelle est normale. L'identité sexuelle, elle dépend de plusieurs choses. Et au fait, elle se développe beaucoup dans l'enfance. Et elle peut être altérée aussi par les parents. Si les parents, par exemple, vous avez un garçon, mais que vous vouliez une fille, et que vous traitez votre fille comme si c'était un garçon, ça va influencer sur son identité sexuelle. Ça deviendra un garçon manqué, etc., etc. Et puis ça peut aller beaucoup plus loin. Inversement pour les hommes aussi. Son attitude par rapport à ça. Si vous voulez une fille, vous avez un garçon, traitez votre garçon comme un garçon, traitez pas votre garçon comme une fille. Ça évitera des problèmes. C'est la destruction de notre identité sexuelle. Mais il y a aussi un côté beaucoup plus charnel, beaucoup plus terre à terre, tout ce qui est marketing, culte de l'image, modèle de réussite. Il faut avoir un corps sain, il faut être musclé, il ne faut pas être gras, il faut avoir une belle voiture, une belle maison, un bel appartement, il faut avoir une femme, des enfants. Tout ça, ce sont des modèles de réussite. Et le monde vous dit que si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas réussi dans la vie. Il faut être en santé. Si tu es malade, tu n'as pas réussi. Si tu es malade, tu n'existes pas, tu es rejeté. Il y a beaucoup de rejets. L'addiction. Ce monde rejette toutes les personnes qui souffrent d'addiction, et on peut parler de drogue, mais il y a tellement d'autres addictions, et parfois des addictions qui ne se voient pas, des addictions internes qui viennent de blessures que nous avons. C'est le culte de l'égocentrisme. Je dois aller bien, je dois réussir, je dois être un modèle de réussite. Je. Pour le monde, c'est ça. Je suis, je dois. Et si tu n'as pas un maximum de ces critères-là, tu n'as pas réussi. Et puis, il y a notre entourage, ce que les autres disent de nous. On a vu les parents pour l'identité sexuelle, mais ça peut être au quotidien. Il n'y a pas que les parents, les enfants, il y a aussi comment on interagit entre nous. Si toute votre vie, on vous a dit que vous êtes un moins que rien, que vous n'allez jamais réussir à rien, que vous êtes un perdant, ben, quand vous allez grandir, vous allez arriver dans la vie, ben, vous allez réagir comme un perdant, tout simplement. Alors que ce n'est pas la vérité. Des pressions psychologiques aussi, ça peut être au travail, même dans un couple, il peut y avoir des pressions psychologiques de part et d'autre. Et pour illustrer ça, je vais essayer de prendre l'autre sens, parce qu'on dit souvent qu'on rabaisse, tu n'y arriveras pas et tout, mais il y a aussi l'effet inverse. Surévaluer quelqu'un peut aussi être négatif. Et là, c'est l'histoire d'une personne à qui on a dit toute sa vie, tu es quelqu'un de génial, tu es formidable, tu es extraordinaire, tu es un modèle de réussite, personne ne t'arrive à la cheville, tu es le meilleur. Et en grandissant, cette personne a cultivé cette pensée. Ce n'est pas forcément négatif à la base, mais elle l'a cultivée. Et un jour, cette personne est invitée à manger chez d'autres amis à elle. Ils passent une excellente soirée, tout se passe très bien. Et à la fin de la soirée, le gars, il sort de chez eux, tout content, tout fier. Et là, il dit « Oh, quelle chance ils ont eu de passer la soirée avec un type aussi formidable que moi !» Vous voyez ? Et là, on revient vraiment dans l'égocentrisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir, qu'on doit cultiver une piètre idée de ce qu'on est, on doit se rabaisser ou pas, ce n'est pas ça du tout. Mais restons qui on est. Nous avons des bons côtés, nous avons des mauvais côtés, nous avons des côtés de réussite, nous avons des côtés d'échec. Ça fait partie aussi de la vie. L'identité n'est plus ce que nous sommes, mais ce que nous avons ou ce que nous faisons. C'est ça, le monde. Et là, le monde, il va nous dire ça, mais ton addiction, ce n'est pas ton identité. Ta maladie, ton handicap, ton statut social, ta voiture, ta maison, ta famille, ton divorce, tes échecs, ce ne sont pas ton identité. Ce n'est pas ton nom. Tu ne t'appelles pas divorce, tu ne t'appelles pas échec, tu ne t'appelles pas belle voiture, belle maison, réussite, tu ne t'appelles pas maladie ni handicap. Ce que tu es doit être influencé par la voix de Dieu, la troisième voix qui va interférer dans notre vie, dans notre identité. Et pour ça, j'aimerais vous lire Éphésiens 2, verset 10. Je vais prendre juste la première partie. Qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes ? Nous sommes son ouvrage. Ce mot-là, ouvrage, dans ce verset, sa traduction en grec, c'est poiema. Et poiema, ça veut dire poème, chef-d'œuvre, le joyau de sa création. Dieu nous a créés comme son vis-à-vis, quelqu'un avec qui il veut avoir une relation, quelqu'un avec qui il veut passer du temps, quelqu'un qui veut aimer, quelqu'un par qui il veut être aimé. Dieu Tout-Puissant nous a créés comme ça, comme son chef-d'œuvre, son œuvre d'art. Beaucoup plus qu'une toile peinte sur un tableau qui prend la poussière, qui peut s'écailler, mais comme ce modèle, ce chef-d'œuvre qui veut rendre pur et qui veut rendre beau, présentable pour l'éternité. On parle d'une éternité. Dieu veut passer l'éternité avec nous. Ok, prenez la personne que vous aimez le plus au monde. Vraiment le plus au monde. On est tous d'accord, quelquefois il y a des moments où... ça peut être agaçant. Maintenant, imaginez-vous passer une éternité avec quelqu'un que vous n'aimez pas, avec quelqu'un qui vous rejette, quelqu'un qui ne vous écoute pas, il ne vous aime pas. Déjà, parfois, c'est difficile avec quelqu'un qui vous aime, mais vous imaginez avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Eh bien, Dieu, que vous l'aimez ou non, il veut passer l'éternité avec vous. Il veut révéler son amour. Il veut que nous puissions accepter cette identité pour vivre éternellement, pour avoir cette relation éternelle avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour que nous puissions passer cette éternité avec lui, pour que son joyau, son chef-d'œuvre, puisse être constamment, jusqu'à jamais, avec lui. Jean 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » On parle de la grâce. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a fait de nous ses fils et ses filles. La grâce, Jésus à la croix, Jésus est mort, il a souffert, il a porté le poids de nos péchés à la croix pour nous rendre présentables, pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Malgré que notre aptitude en tant qu'être humain, c'est de le rejeter, de lui désobéir, de fuir loin de lui, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu nous chercher pour faire de nous ses fils et ses filles. Notre identité va jusqu'au don du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que quand Jésus est venu à la croix, il a permis que nous devenions fils et filles de Dieu. Mais ce n'est pas juste comme ça. Il va mettre sa carte d'identité en nous, le Saint-Esprit qui nous envoie, qui nous remplit, qui nous guide, qui nous révèle que Dieu est Dieu, que Jésus est notre Sauveur. Nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Et là, j'aimerais juste vous parler un petit peu de politique et d'immigration. Ok. Ce que je vais dire, c'est pas du tout, je ne juge aucune politique d'immigration, c'est juste pour prendre une illustration. Je vais prendre l'illustration d'un pays qui cultive le droit du sol au niveau de la nationalité, comme la France, versus un pays qui ne cultive pas ça, où il y a des procédures administratives longues, difficiles, comme nos voisins et amis suisses. Aucune critique, vraiment. Et le royaume de Dieu et notre monde ici, on peut les comparer. Le royaume du monde, c'est la France, le droit du sol. Quand nous naissons en tant que pécheurs, nous naissons loin de Dieu, nous naissons séparés de Dieu. Nous avons le droit du sol du monde, de la chair qui nous conduira jusqu'en enfer. Et à côté, il y a le royaume de Dieu. C'est un royaume, il n'y a pas le droit du sol, ça n'existe pas. On ne naît pas dans le royaume de Dieu. Il y a toute une procédure administrative longue et impossible à accomplir que l'on doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu qui s'appelle la loi qui a été donnée à Moïse il y a longtemps. Mais, ce n'était pas la fin. Jésus est venu et Jésus a accompli toutes ces démarches administratives pour nous. Plus besoin d'aller à l'ambassade, etc., la permanence, aller chercher ce papier, faire le chèque de ci, de ça. On a perdu votre dossier, il faut tout recommencer. Fini. Jésus a tout fait, le dossier, il est clos, il est tamponné, il est envoyé. Il vous attend de l'autre côté de la frontière avec votre passeport. À vous de dire si vous voulez ce passeport ou si vous ne le voulez pas. Je vais demander à l'équipe de louanges de venir. Et vraiment, on parle, tous les bons principes psychologiques n'auront jamais autant d'effet que l'œuvre de Christ à la croix. Vous pouvez aller voir n'importe quel psychiatre, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, pas du tout, on en a besoin. Et personne n'est fou en allant voir quelqu'un, on a tous besoin d'aide à un moment ou un autre dans notre vie. Et c'est pour ça que Dieu aussi a suscité des psychiatres, des psychologues. Il y a aussi des gens qui mettent à part dans la relation d'aide dans le service chrétien. Et d'ailleurs, justement, comme on parle de notre identité, on parle de notre propre identité. Mais la semaine prochaine, on va attaquer les 7 visages de Jésus. Alors si vous voulez apprendre qui est Jésus, on vous donne rendez-vous à partir de dimanche prochain. Et comme le dirait mon professeur de relations d'aide, Denis Morissette, quand un « qui suis-je » rencontre le grand « je suis », ça fait un grand quelqu'un. Vous êtes un grand quelqu'un. Vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un. Jésus est venu pour vous. Il n'y en a pas deux comme vous. Le diable, il va vous dire ce que tu es, c'est ce que tu as fait, ton passé. Ton passé va venir, il va venir te chercher. Tu as fait ça, tu n'es pas bon, tu n'es pas bien, tu n'y arriveras jamais. Ça, tu n'y arrivais pas avant, mais tu n'y arriveras pas demain. Ça, c'est faux, c'est profondément faux. Satan veut vous garder dans votre passé parce qu'il sait, lui, où il va aller. Le monde va dire ce que tu es, c'est ce que tu devrais faire ou non. C'est ce que tu devrais avoir ou non. C'est ce que tu devrais être ou non. C'est ce que le monde va vous dire. Mais Dieu, il dit, tu es. Le grand je suis dit, tu es. Tu es mon fils, tu es ma fille. J'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse tous fermer les yeux et vraiment se connecter à Dieu. Tourner nos regards vers Dieu. Et ce matin, peut-être que tu connais, tu as déjà donné ta vie à Jésus, peut-être que tu es déjà un fils ou une fille de Dieu, mais peut-être que tu aimerais que cette identité soit ancrée en toi. Tu aimerais vraiment la recevoir comme quelque chose de sûr, de vrai et de fort. Peut-être que ce matin, tu n'as pas encore fait ce pas de t'avancer, de recevoir ton identité en Christ. Et là, vraiment, tout le monde ferme les yeux, baisser la tête, c'est pas mystique, c'est juste pour respecter, c'est pas forcément évident pour chacun, et vraiment pour qu'on puisse respecter l'intimité de tous. Et si aujourd'hui, tu veux recevoir cette entité, cette identité en Jésus, je vais juste te demander de lever la main. Amen, oui, je vois vos mains. Vous pouvez baisser vos mains. J'aimerais juste prier pour vous et puis après le groupe louange nous conduira dans un chant. Merci Père éternel pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Merci pour cette œuvre, merci pour cet amour, merci parce que tu fais de nous tes fils et tes filles. Je te demande vraiment de venir ancrer en chacun de nous, Seigneur, cette identité profonde, que ce ne soit pas juste une idée, une pensée, une intelligence, Seigneur, mais que ce soit une réalité, que nous puissions le vivre au quotidien, que nous prenions conscience de la puissance et de la grâce qu'il y a dans ton nom et dans l'identité que tu mets en nous. Seigneur, je te prie pour ces gens qui ont levé la main et qui veulent recevoir ton identité. Je te prie, Seigneur, de venir te révéler à eux. Je te prie de venir ancrer qui tu es en eux, Seigneur. Viens les toucher où ils sont maintenant, Seigneur. Amen. À ceux qui ont levé la main, si vous voulez, vous pouvez venir nous voir ou un responsable. Je ne sais pas si les anciens peuvent lever la main. Juste regardez où ils sont. Puis si vous avez besoin de prière ou si vous avez des questions, venez nous voir à la fin. Merci.
Sans toi, je ne peux. Il fait beau dehors, on va avoir du temps pour discuter ensemble, pour apprendre à se connaître. Il y a pas mal de gens qui sont là que moi, personnellement, par exemple, je connais pas. Donc ça veut dire que vous, vous devez pas les connaître aussi. Donc profitons d'être au soleil dehors, de bronzer en même temps que on apprend à se connaître. C'est cool. Merci Pierre pour l'exhortation à se souvenir qui on est. Et on n'est pas n'importe quoi, c'est vrai. Moi, dans le milieu où je travaille, il y a un peu cette blague qui n'est pas tant une blague, mais qui circule avec, vous savez, cette phrase qui a été dite terrible en France, que s'il y a 40 ans, on n'a pas une Rolex à son bras, on a foutu sa vie en l'air, on a raté sa vie. Et Pierre, j'ai envie de te dire, tu n'as pas la Rolex au bras, mais tu as Jésus dans ta vie. Et ça, c'est ce qu'on doit saisir, et ce que je vous invite à saisir. Et là, on n'a pas raté notre vie. Donc si tu as 40 ans et que tu n'as pas de Rolex au bras, mais que tu n'as pas non plus Jésus dans ta vie, pose-toi les bonnes questions. Ça vous fait rire, mais c'est vrai, moi, ça me fait pas rire. Pose-toi la question, la Rolex, tu l'auras là-haut. Hein. Ça s'appellera pas Rolex, ça s'appellera autre chose. Hein. Je viens partager avec vous les annonces de la semaine. D'abord, je vais demander à Clément si tu peux nous repasser le clip. Cette semaine, le mois d'octobre plutôt, de novembre, je vais y arriver, on a cette fameuse série qu'on a annoncée depuis quelques temps sur les sept visages de Jésus. Les sept visages de Jésus, c'est quoi? Ouais, Rémi, j'aime bien te voir en maillot de bain, là. Je vais la faire à chaque fois, cette blague. Les sept visages de Jésus, c'est quoi? C'est une série de sept messages qu'on veut apporter sur les cinq dimanches du mois de novembre et les deux dimanches du mois de décembre qui correspondent à sept paroles de Jésus. Par exemple, celui de la semaine prochaine, c'est « Je suis ». Nous, on a dit « Je suis l'introduction » parce qu'on a été un petit peu coquins, on a changé les noms que Jésus disait. C'est « Je suis la porte ». La semaine prochaine, on va bosser sur, on va écouter « Je suis l'introduction ». Et on vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à inviter des gens qui ont besoin de connaître ces visages de Jésus dans leur vie. Et puis on vous remonte le petit teaser qu'on a fait pour vous allécher.
Les sept visages de Jésus.
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 Ok, si vous n'avez pas compris, c'est la semaine prochaine, les sept visages de Jésus, et on est content et heureux de commencer cette série interne, on va dire ça, c'est une série interne, mais on souhaite qu'elle soit, que tous puissent en profiter, qu'elle ne soit pas enfermée à l'intérieur de l'Église, mais qu'on puisse amener du monde à l'intérieur de l'Église, et aussi qu'elle puisse sortir à travers les médias et ce genre de choses. Donc les sept visages de Jésus, la semaine prochaine, l'introduction, ça sera Phil qui prendra ce thème la semaine prochaine, et puis il y aura aussi Pierre et puis Matt qui prendront d'autres thèmes sur les sept visages entre novembre et décembre. En parlant de Phil, vous avez vu qu'il n'est pas là ce matin, il est, juste pour votre info, il est à une église de maison. Il y a des églises de maison dans le pays de Gex qu'on ne connaît pas, on croit qu'il n'y a que les églises qu'on connaît, genre Préfet, Saint-Genis, Ferney, Gex. Et non, il y a d'autres chrétiens ailleurs dans le pays de Gex, et Phil est allé à une église de maison à Thoiry, chez Philippe et Chantal, pour ceux qui connaîtraient. Et voilà, on est heureux que... la bénédiction qu'on a d'avoir ce pasteur puisse profiter à d'autres aussi. Donc il est là-bas aujourd'hui, on le retrouvera la semaine prochaine. Pour le programme de cette semaine, on a mardi cette fameuse réunion de membres qu'on vous a déjà annoncé plusieurs fois. Elle a lieu à 20h00, pas 20h30, 20h mardi, cette réunion de membres. On dit réunion de membres, ça donne l'impression que ceux qui sont membres de l'Église peuvent venir. C'est pas vrai du tout. C'est une réunion informelle où tout le monde peut venir. Si vous n'êtes pas membre de l'Église, vous pouvez participer. De quoi est-ce qu'on va parler à cette réunion? Il n'y aura aucun vote qui sera fait, c'est juste une discussion. On va parler de la gestion de la croissance de l'Église. On va avoir plusieurs volets. Un qui est de savoir comment est-ce qu'on s'organise pour gérer la croissance que l'on constate, c'est-à-dire s'organise en termes humains. Une deuxième volet sera comment est-ce qu'on s'organise en termes de locaux. Et un troisième, on fera les points sur les travaux et puis divers sujets qui seront amenés, notamment la fête de Noël dont on reparlera. Donc c'est ce mardi à 20h, vous pouvez venir, on sera content de vous voir et ce serait même bien que vous veniez en masse pour qu'on ait l'écho, la vie d'un plus grand nombre de personnes, parce que si on est juste trois pour pas prendre des décisions cette fois-ci, mais pour avoir le sentiment de l'Église, c'est un petit peu compliqué. Donc on vous invite à venir ce mardi. Ce jeudi 31, on a aussi un événement un peu particulier. À 20h, ce jeudi, on a une soirée de louanges et de prières. Certains groupes de personnes ont prié de tout le mois de novembre pour ce projet des 7 visages de Jésus. On veut clôturer ce moment de mois d'octobre pendant lequel on a prié avec une soirée ce jeudi à 20h00 aussi, 20h00, pas 20h30. Avec un moment louange, prière. Donc venez participer à ce moment, ça sera ici à l'étage. Samedi, le groupe de jeunes à 20h. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe de jeunes, vous pouvez aller voir Pierre qui a prêché à partir de 15 ans. Voilà, à 20h ce samedi. Et dimanche prochain, avant cette introduction des 7 visages, si vous voulez venir plus tôt, à 9h30, il y aura le thé café en bas. Un chouette moment aussi pour partager et apprendre à connaître les personnes. Il me reste encore une annonce à faire. Sur les 7 visages de Jésus, il y en a un qui s'appelle, qu'on a nommé, la provision. Jésus dit « Je suis la provision ». Voilà, je vais vous laisser réfléchir à quoi ça correspond, parce qu'il ne faut pas que je spoil. Jésus est la provision. Et il y a des événements concrets où nous, on peut provisionner pour les autres. C'est des événements sociaux qui se passent au mois de novembre dans notre église, enfin pas dans notre église, pas du tout dans notre église d'ailleurs, qui se passent dans le monde. C'est les banques alimentaires dont on parle, c'est les collègues du Resto du Cœur. Et voilà l'époque de l'année où on commence à en parler parce que nous, en tant qu'église, on croit que cette œuvre sociale, c'est important qu'on s'y ajoute pour montrer qu'on est tourné vers notre prochain et pas que pour le montrer parce qu'on l'est réellement. Et donc, si vous êtes sensible à pouvoir aider sur ça, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'avoir du temps et de l'amour à donner. Et donc, les événements, on vous annonce deux dates différentes. Il y en a un qui est pour les collectes du Resto du Cœur, qui sont gérées par Nicolas Landel, Papier au Cœur, et Élodie Baron. Cette collecte du Resto du Cœur, ils ont besoin de monde. Donc, allez les voir sur Senis, sur Perron, pour le 9 et 10 novembre. C'est le week-end dans 10 jours, si je ne dis pas de bêtises. 15 jours, pardon, dans 15 jours. 9 et 10 novembre, dans 15 jours. Donc, 9 et 10 novembre, dans 15 jours, vous allez voir Élodie pour les collègues du Resto du Cœur. Et puis, fin novembre, souvenez-vous, Jésus dit « Je suis la provision ». Fin novembre, il y a la collecte de la Banque alimentaire, dans laquelle on participe aussi régulièrement. C'est le week-end qui est à cheval sur novembre et décembre. Donc là, de la même manière, on va bientôt vous envoyer des doodles pour pouvoir vous inscrire, pour qu'on se répartisse sur les divers magasins. Donc, il faut qu'on se laisse bousculer un petit peu et puis qu'on montre que notre foi, ce n'est pas que enfermée dans cette église, dans ses murs, mais qu'elle sort bien au-delà et qu'elle a une application concrète, une application sociale pour nos prochains. Donc je vous invite à vous souvenir que Jésus est la provision et de contacter Élodie ou bien regarder sur les doodles. Encore une fois, profitez de ce beau soleil. Moi, j'ai envie d'aller en profiter. Et puis d'habitude, je vous dis à dimanche, à la prochaine, au revoir, je ne sais plus comment je dis. Hein. Mais là, on m'a glissé qu'il y avait deux anniversaires aujourd'hui. Alors il y en a une, elle ne va pas se taper la honte parce qu'elle n'est pas là. C'est Élodie Sauret qui n'est pas là, donc son anniversaire aujourd'hui, vous pourrez lui souhaiter. Puis l'autre, elle est là, elle se cache chez Nancy, donc on va finir en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Hein. Allez, bon dimanche, joyeux anniversaire.